Ce que je propose, c'est de vous faire travailler. J'ai préparé quelques questions qui, j'espère, vous aideront à donner vos points de vue. N'hésitez pas, évidemment, à casser, à tordre mes questions. N'hésitez pas, vous aussi, quand vous voulez, à réagir, à ajouter des questions qui sont peut-être certainement plus intéressantes que les miennes, ou à y répondre aussi, ou à participer, peu importe de quelque manière que ce soit. Mais ce que je voulais faire au début, c'était vous faire travailler. Tu as eu le temps, Xavier, de jeter un petit œil dans l'exposition, puisque vous êtes aussi connu pour vos points de vue sur vos différents supports. C'était vous faire réagir, soit sur une œuvre, comme je le ferai avec vous, soit sur l'exposition ou son titre. Qu'est-ce qui te... Alors, je sais que t'es arrivé.
Ouais, j'aurais vraiment du mal à avoir un point de vue.
Puisque tu nous as autorisé à poser la question, voilà, dans la question.
Tu prends ton premier joker.
Parce que je trouve cette, je trouve passionnant cette question de savoir pas ce que c'est que l'art numérique, mais qu'est-ce que c'est que ces rapports possibles entre l'art et le numérique, mais entre tout et le numérique. Je m'explique. Je vous disais qu'à Rue 89, on faisait un tournant autour des questions numériques. C'est-à-dire que tout à coup, on prenait un site qui était un site d'information générale, qui parlait de Sarko, qui parlait du FN, qui parlait de l'économie, etc. Puis tout à coup, pour des raisons qui sont des raisons d'industrie des médias, disons, on nous dit, voilà, vous allez parler de la vie connectée, de ce que fait la révolution numérique dans nos vies. Voilà. Et alors, du coup, nous, on se dit, bon, on ne va pas abandonner le fait de parler de politique, d'économie, d'art, de sport, etc. Mais on va regarder tout ça à travers le prisme du numérique. Et alors, ça, vous expliquez ça à votre rédaction. D'abord, il y a un traumatisme. C'est normal, les rédactions sont des lieux de traumatisme. Bon. Mais ensuite, il faut que vous définissiez ce que vous entendez par là. Et alors, nous, c'est intéressant parce que ce virage, on est censé le faire, l'opérer depuis novembre. Et alors, depuis novembre, je suis donc, en tant que rédacteur en chef, et donc, comme par ailleurs je travaillais avant sur le numérique, donc je suis porteur de cette parole-là, disons, je suis perpétuellement en train d'essayer d'expliquer aux gens avec lesquels je travaille ce que c'est que le numérique. De définir un contour, quoi. Et alors, c'est horriblement difficile. C'est horriblement difficile d'essayer de définir, parce qu'au départ, l'aune à laquelle ils jugeaient la proposition d'un papier par un public qui proposait, c'était est-ce que c'est connecté ou pas ? Alors, c'est hyper bizarre, quoi. Est-ce qu'un sujet est connecté ou pas ? Qu'est-ce qui fait qu'un sujet est connecté ? Alors, c'était très étrange comme question. Alors, je dis, non, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est en quoi est-ce que ça engage une question qui a rapport avec les médias, les technos, les machines, etc. Mais bon, en même temps, tout ça, c'est un espace qui est un espace aussi très indéfinissable. Et alors, donc cette question-là, vous pouvez la décliner dans tous les champs. Ça, par exemple, dans le champ politique. Vous dites, voilà, alors évidemment, il y a des questions qui sont évidentes. Le vote électronique, par exemple, aujourd'hui, les Wallons ont demandé au gouvernement fédéral belge de suspendre le vote électronique. Donc ça, c'est un sujet pour nous, par exemple. Voilà. Mais alors, quand je ne sais pas, il y a le congrès du PS, par exemple, comment on traite avec ce prisme numérique le congrès du PS ? Alors, est-ce qu'on va les regarder dans les différentes motions ce qui disent des questions numériques ? Ce qui n'est quand même pas ultra passionnant. Est-ce qu'on va regarder comment est-ce que la campagne autour du PS se résonne dans les réseaux ? Ce qui est une manière de la regarder, etc. Bon. Ou est-ce qu'on regarde, est-ce qu'en ce moment il faut regarder comment on va s'élaborer, ou va prendre s'élaborer, ou rater cette étude de grand loi sur le numérique, etc. Enfin, bon, et en même temps, comment on traite, je ne sais pas, le retour de Sarko et le fait que l'UMP devienne des républicains ? Est-ce qu'on traite ça parce que par la conversation dans les réseaux ? Est-ce qu'on traite, bon. Et là, je vous donne à la limite le côté le plus difficile, qui est la question politique. Enfin, comme la politique politicienne, elle est quand même très, elle est très classique, au fond. Bon. Donc, mais en même temps, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Par exemple, Podemos en Espagne, c'est intéressant parce qu'ils font la politique par plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réutilisé les acquis des mobilisations numériques, ils ont transféré dans une politique ancien, réel. Alors, du coup, ça, c'est intéressant aussi, mais bon, voilà. Donc ça, c'est la question politique. Mais en art, traditionnellement, en 89, parle d'art, de culture, etc. Bon. Jusqu'à maintenant, c'était, tant qu'il y avait une fille au départ qui était là, qui adorait la BD et le cinéma, en 89, c'était essentiellement de la BD et du cinéma. Quoi. Voilà, c'est pas, ils traitaient des objets un petit classique, quoi, une expo, un film, etc. Là, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la culture part à travers le prisme du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Et c'est drôle parce que j'ai eu la journaliste dont je parle tout à l'heure, la Kanesha, on a eu hier matin cette conversation parce qu'elle était un peu perdue, elle me disait mais elle est allée voir l'expo, elle est allée voir l'expo de Valérie Jouve au Jeune Paume, et puis elle me dit voilà j'ai trouvé super, etc. Mais c'est pas connecté, qu'est-ce que je fais de ça, est-ce que ça rentre dans nos spectres, etc. Donc du coup on a eu à nouveau cette conversation de savoir comment on voulait parler de ces questions culturelles. Et donc, au cœur de ça, il y a la question de, voilà, qu'est-ce que c'est que culture et numérique? Alors, c'est plein de choses en même temps. En fait, elle le voyait un peu, parce que, voilà, c'est des moments aussi, c'est correspond au moment de l'année, où elle est fatiguée, etc. Elle le voyait d'une manière très restreinte. Elle voyait Valérie Joux, qu'elle avait envie d'interviewer, qui ne parlait pas de numérique, elle voulait en parler. Bon, et je disais, bon, mais il y a tellement autre chose. Et donc, si on s'intéresse à ces rapports entre, disons, culture et numérique, c'est le champ est ultra vaste. C'est-à-dire que vous avez à la fois la question des cultures numériques, c'est en quoi est-ce qu'il se passe dans les réseaux, constitue ou pas une forme de culture. Donc ça interroge des pratiques, je sais pas, par exemple le mash-up, le fait de recycler des images, etc. Bon, voilà. Alors c'est intéressant parce qu'on prend la question du mash-up, on se dit tiens c'est rigolo parce que c'est à la fois une pratique numérique dans la mesure où tout à coup est à disposition des artistes une masse d'images complètement incroyables, qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec des logiciels qui ne coûtent rien, etc. En même temps, ça n'est rien que le réinvestissement de pratiques très anciennes qui ont largement précédé les réseaux. Donc voilà, mais c'est intéressant. Donc vous avez des pratiques, etc., ce champ des pratiques. Vous avez la question des usages. Ça c'est intéressant la question des usages, parce qu'effectivement aujourd'hui, nous en tant que, avec ce mot atroce de consommateurs de culture, on a une manière de consommer la culture justement, ou disons de vivre le rapport à l'objet culturel, qui est sans doute assez différente. Et qui induirait, du coup, si on était fidèle avec ça, des formes journalistiques différentes. Je m'explique. Par exemple, moi, je ne peux plus lire de critiques de cinéma traditionnelles. Enfin, quand je dis traditionnelles, c'est celles que vous lisez dans la presse. Je comprends pas. Je comprends pas. Le truc du film, le mec ou la nana va le voir, le raconte et dit c'est bien ou pas. Alors voilà, ce truc-là ne correspond plus en rien à la manière dont moi je vis le cinéma. Moi, je vis le cinéma très différemment. Ça. Enfin, et quand j'en parle aux autres, quand je dis moi, c'est les gens à qui je parle. J'ai l'impression qu'ils vivent. Aujourd'hui, comment on vit le cinéma, il me semble, hein, quand on est un peu dans les réseaux. Enfin, disons, on va, par exemple, on va voir un film, on va voir le dernier film là, de. Je sais pas, je pense à Hackers, là, le film de. Ce film, ce cinéaste qui était Collatéral et tout. Pardon ?
Je vais dire, peu importe, on voit le film.
Michael Mann.
Si, pas peu importe.
Ah bon ?
Non. Et donc, vous prenez parce que c'est un film justement sur les cultures numériques aussi. C'est un film qui est intéressant, ça. Comme vous allez voir ce film, parce que Michael Mann décide de s'emparer des cultures numériques, etc., en faisant un film sur les hackers. Aujourd'hui, je me dis ça parce que plein de gens ont fait la même chose. Vous allez voir ce film où il est pourri. Il est complètement pourri, mais en même temps, il a un titre qui a. C'est Hacker au singulier, mais il y avait un film en 95 qui s'appelait Hackers. Et donc vous dites, ah tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui différencie le hacker de Michael Mann du hacker de 95? Cette question-là, vous la posiez il y a 20 ans, vous étiez bien embarrassé, parce qu'il fallait aller dans un vidéoclub pour voir Hackers, et comme c'est un film coton pourri, aucun vidéoclub ne l'a non plus, là vous tapez Hackers sur YouTube et vous voyez le film de 95. Bon. Donc tout à coup, vous commencez comme ça à faire des sortes de plongées. Vous allez voir, pas forcément entier, vous allez voir des extraits de Hackers sur YouTube. Et puis après, vous dites quand même, Michael Mann, c'est marrant parce que son art, une partie de son génie, ça réside dans la capacité à filmer la ville. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que comme il est un peu obsessionnel, donc il a filmé ce qu'il imagine se passer à l'intérieur d'un ordinateur, comme la ville, avec des circuits, comme ça, qui est une vieille métaphore en fait, du cinéma. Et donc, vous allez revoir Collatéral, etc. Donc là, vous piratez, ou alors vous payez si vous êtes vraiment très honnête, et vous allez voir le film, etc. Et puis après, et donc vous vivez à partir du film que vous êtes allé voir, une sorte de plongée, comme ça, ça. Et moi, ce que j'aimerais que les critiques de cinéma me racontent, c'est pas Hacker de Michael Mann, ça je suis capable d'aller voir le film et savoir c'est. Mais c'est qu'ils me racontent aussi cette espèce de qu'est-ce que ça crée comme plongée, etc. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant, qui est la question de en quoi est-ce que le numérique change, modifie, approfondit, je sais pas, la manière dont on vit le rapport avec une œuvre. Ça c'est un truc qui me semble très intéressant. Et puis après, il y a la question de l'art numérique. Voilà. Ce qu'on appelle l'art numérique, une espèce de catégorie, alors qu'on peut interroger d'une manière, qui existe, qui n'existe pas, qui a existé et puis plus, enfin, je ne sais rien. Mais c'est la production, ce qu'il y a ici par exemple, c'est la production des œuvres qui, d'une manière ou d'une autre, utilisent la technologie. Alors ça, c'est vachement intéressant, parce que c'est très dur d'en parler dans un média généraliste. Très dur. On n'arrive pas à. Les lecteurs, je vois, ça les. Enfin, Marie, peut-être ça a été ton truc, quoi. Ça, comment on en parle de ça, quoi. Alors, parce que, évidemment, comment on en parle, parce que comment est-ce qu'on réussit à réinvestir, sans être caricatural, des problématiques traditionnelles de l'art à l'intérieur de ça? Comment est-ce qu'on montre que c'est quand même un petit peu différent? Comment est-ce qu'on articule? Parce que, par exemple, certaines œuvres, c'est assez facile quand c'est très visuel, etc. Mais quand vous prenez des œuvres, je pense aux œuvres de Christophe Bruno, par exemple, qui recrée des moteurs de recherche, etc. C'est des trucs, ça demande pour accéder à l'œuvre, même du point de vue esthétique, un niveau de culture numérique qui fait qu'un papier, par exemple, doit d'abord expliquer comment fonctionne un moteur de recherche avant de montrer en quoi l'œuvre de Christophe Bruno est une question sur les moteurs de recherche, etc. Et l'esthétique, enfin, c'est vachement compliqué. Et il y a tout ça qui est un pan où il faut inventer, alors toi tu l'as fait, mais t'es des rares en France à l'avoir fait, ça a inventé une forme de critique pour ce type d'art, quoi, qui est compliqué. Alors qui est peut-être moins compliqué maintenant qu'il y a 15 ans, puisque la culture numérique se répand. Donc, les gens savent ce que c'est qu'un moteur de recherche.
Justement, j'avais une question sur une pièce, mais tu pourras, si tu veux en parler, mais je pense que c'est intéressant de réagir, Marie, si tu veux bien. De réagir justement à la question de comment on en parle, mais aussi sur ce que tu finissais par dire, qui me paraît très intéressant, c'est comment on en parle aujourd'hui, comment on en a parlé hier. C'est-à-dire, quand tu disais, ce qui est très très juste, une œuvre de Christophe Bruno, je pense Fascinum, qui date d'il y a 10 ans. C'est vrai qu'il y a 10 ans, j'imagine que tu étais quasi obligé d'expliquer presque ce que c'était qu'un moteur de recherche, je suis même sûr, ce que c'était qu'un moteur de recherche, lequel, etc. On ne pouvait pas comprendre l'œuvre si on ne comprenait pas le fonctionnement du moteur de recherche. L'indexation des images. Aujourd'hui, j'imagine que quand tu parles d'une pièce comme ça, tu te sens plus obligé.
C'est sûr que ça a changé. Après, ça dépend des interlocuteurs. Donc, ça dépend, par exemple, que j'ai travaillé avec une rédaction jeune. À l'IB, ce n'était pas le cas, notamment les interlocuteurs à la culture. Et en fait, selon le degré de. Enfin, disons que moi, ça m'est arrivé jusqu'au bout. Mais en fait, il fallait encore tout expliquer, quoi. Donc, parce que ça se complexifie aussi, parce que les data, c'est compliqué, parce que les algorithmes, c'est compliqué, parce que le darknet, c'est compliqué. Et donc en fait, ce qui est le plus compliqué quand on parle d'art numérique, c'est qu'il faut parler de tout ce qu'il y a autour, parce qu'on ne peut pas partir du point de vue que les gens sont acculturés. Ça demande du coup une sorte de. C'est un truc un peu ingrat où, en fait, effectivement, il faut à la fois être, pour un journaliste qui suit ça, à la fois être soi-même assez au fait, en fait, de l'état technologique de la société, des enjeux culturels, artistiques et sociaux et politiques, souvent, qui sont dans l'œuvre, des outils, de comment c'est présenté, et tout ça, le faire en très peu de signes, parce que l'écriture numérique, elle, c'est pas Velasquez, quoi, donc c'est difficile de dire qu'on va faire de double page dessus, même si on peut argumenter que c'est nécessaire. Donc en fait, moi, c'est l'inverse. En fait, j'avais plutôt. L'idée a toujours été un journal qui a vraiment été hyper en avance sur le traitement de ces sujets, parce qu'il y avait Cahiers Multimédia. Où ils ont tout de suite parlé de culture, la culture était tout de suite partie prenante du cahier multimédia, puis il y a eu écran, il y a eu le site web de l'IB était vraiment très en avance par rapport au monde, vu que j'avais bossé dans les deux en fait au même moment, en fait c'était encore juste une page HTML, etc. Et j'avais qu'une envie, vu quand j'étais au monde, c'était de bosser à l'IB parce que c'était vraiment trop pourri le site du monde. Et en fait, à un moment donné, le problème c'est qu'il y a. Voilà, il y a eu des problèmes d'investissement, donc du coup ils ont un peu décroché, mais on a quand même essayé de continuer à faire ça. Et du coup, moi, ma stratégie, c'était toujours plus une stratégie de parasitage, en fait, qu'une demande qui viendrait, comme là, on te demande de faire des choses sur le numérique, et moi, on ne demandait rien, et en fait, ça, c'était plutôt un combat au quotidien pour expliquer pourquoi je jugeais que c'était important de parler de ces œuvres. Et moi, en fait, j'ai, comme tu sais, c'est pas vraiment du point de vue artistique, formel, histoire de l'art. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que j'avais toujours l'impression que les artistes qui travaillaient avec ces médiums, ils avaient trois coups d'avance, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils avertissaient sur des choses qui allaient vraisemblablement devenir le quotidien de plein de gens et dans un prolaps de temps. Quand il y a eu toutes les affaires de Snowden, je veux dire, la surveillance, ça faisait 5 ans que les artistes qui travaillent avec ça, ils étaient en boucle dessus, qu'ils avaient déjà commencé à faire des réseaux offline, qu'ils avaient déjà commencé à imaginer un Internet bis, à questionner en fait le problème des données privées, le problème de la privatisation du net, de sa centralisation. Je veux dire, c'était déjà tout là, Snowden, ça a juste permis qu'on te regarde autrement, c'est au lieu qu'on te dise « ma pauvre Marie, t'es complètement paranoïaque avec tes artistes là », on disait « ah non, en fait, c'est pas de la paranoïa, c'est juste ça qui arrive ». Donc en fait, ça a juste changé la lunette par laquelle on regarde. Mais il faut quand même, même un journal qui m'a... Alors l'avantage, c'est que par contre, ils m'ont jamais empêché non plus de le faire, quoi. Mais après, il faut un peu jouer des coudes. C'est sûr que ça passe toujours un peu à la dernière minute, mais c'est pas grave, parce que c'était quand même possible. Et je pense qu'ils faisaient quand même confiance, parce qu'ils avaient quand même l'idée que c'était important d'en parler. Maintenant, ils comprennent. Moi, quand je suis partie, il y a encore plein de gens qui ne savaient pas de quoi je parle. D'ailleurs, j'ai gardé. Donc, en fait, l'acculturation jusqu'à un certain degré. Je pense après, ça dépend dans quel contexte on parle. C'est sûr que maintenant, en 89, c'est assez. Où ça va l'être de plus en plus, ça s'est identifié. C'est-à-dire que quand on vient là, on vient déjà aussi parce qu'on a un peu cette culture, je pense. Et que du coup, on n'est pas obligé de repartir à zéro à chaque fois qu'on écrit un article, quoi. Enfin, j'imagine.
Alors, est-ce que tu peux réagir, Violaine, dans la mesure où, quand tu disais, moi je ne veux pas aborder les choses d'un point de vue histoire de l'art, ce que je sais, hein, je pense que c'est davantage...
C'est plus mon champ.
Plus ton champ.
Mais cela dit, c'est vrai que je vais quand même différencier critique d'art et histoire de l'art, dans le sens où critique d'art, c'est vraiment maintenant. Et c'est-à-dire qu'on va pas... Effectivement, il faut quand même penser que dans une rédaction, quand on écrit un article, on a un certain nombre de mots, en l'occurrence, moi j'écris pour de la presse anglophone. On ne peut pas perdre la moitié de la revue pour faire l'histoire de qu'est-ce qui est venu avant. De toute façon, on va couvrir des artistes maintenant, une expo de maintenant. En général, voilà, c'est très rare qu'on ait un artiste qui soit pionnier au point qu'on aurait plus de 60 ans, c'est très rare, en tout cas dans les revues ou pas. Mais alors, effectivement, je pense que par contre, en critique d'art, les références à l'histoire de l'art, si elles sont évidentes, il faudra les aborder d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer un lien. Si par exemple, je pense à Jacques Perconte, je pense que ce serait impossible d'écrire une critique sans juste mentionner l'impressionniste d'une manière ou d'une autre et le renouveler. L'ignorer, ce serait presque prétendre qu'il a fait quelque chose de nouveau, quand en fait, il y a plein de liens en histoire de l'art. Celui-là, peut-être, mais il y en a d'autres. Il faudrait quand même faire cette mention.
Alors justement, quand tu écris sur Jacques Perconte, qui est la pièce qui est au fond, qui s'articule autour de la question de l'erreur, du contrôle, de l'erreur générée par l'artiste, de l'erreur appréciée par l'artiste, de sa capacité... À se refuser le contrôle total de l'œuvre, pratique nommée data machine plus récemment, mais dont il s'était emparé bien avant même que le mot existe. Est-ce que tu te sens obligé, quand tu écris sur cette forme artistique, que d'expliquer un petit peu ce que c'est que la compression des données et tout, ou est-ce que tu dis finalement je peux m'en passer?
Non, je peux m'en passer, je vais pas rentrer dans... Honnêtement, c'est d'avoir avec Jacques Perconte, j'ai pas le sentiment que j'ai besoin de comprendre ce que c'est le data machine, mais après je ne sais même pas ce que c'est. Bon, normalement je cherche à comprendre vraiment les techniques, mais en l'occurrence Jacques Perconte, j'aurais besoin d'arriver à le... C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais avoir des références qui sont historiques, sans rattraper l'histoire, mais il y a vraiment... des notions qui sont totalement artistiques qu'il faut aborder du type sublime. Le paysage, c'est un genre en soi et c'est pas un genre numérique, c'est un genre, ça a d'abord été un genre pictural et on a besoin de parler de peinture aussi avec Jacques Perconte. Ça ne veut pas dire que je vais forcément faire l'histoire de toutes ces autres pratiques, mais d'une manière ou d'une autre, il y a par contre des notions comme presque un dictionnaire de l'art contemporain qui pourrait y passer, c'est-à-dire qu'il faut que je parle du sublime, il faut évidemment que je parle du paysage, il va falloir d'une manière ou d'une autre, je passe la question de l'abstraction, à quel degré cette image-là, c'est plus le paysage, mais... Et c'est de l'abstraction, parce que ça, c'est des degrés zéro qui sont des questions absolument essentielles en art, mais peu importe les médiums, en peinture, c'est très vrai à quel moment on n'est plus dans la figuration, on va dire dans le jeu, c'est les deux pôles qu'on, de manière inhérente, chaque image et indépendamment de leur médium. Donc il y a des questions qui, en fait, sont bien en deçà du fait qu'ils utilisent effectivement de la vidéo numérique. Et après, évidemment, il faut être assez crédible, je pense,
absolument parler de compression, et ce qui est passionnant avec lui, c'est qu'il va effectivement travailler sur l'erreur, sur le bug. Alors arriver à faire une image magnifique en partant du principe, je la détruis au possible. Moi, je vais utiliser tout ce que vous détestez, vous, quand vous regardez vos vidéos, oh non, il y a un pixel, c'est pas possible. Puis il va pousser le jeu à un point maximal et arriver à faire un truc qui est en fait absolument sublime, qui est effectivement du paysage. Bon, il faut insister, mais il faut essayer de trouver tous ces éléments qui, effectivement, certains sont des notions d'histoire de l'art, et d'autres, effectivement, il faut... Je ne vais pas expliquer ce qu'est une compression, je vais partir du principe quand même.
Moi, je veux bien juste réagir sur... C'est intéressant de prendre l'exemple de Jacques Parfumte et justement de la scène glitch dont ferait partie un autre artiste comme Benjamin Golon. Parce qu'en fait, c'est une même pratique donc, qui travaille sur, sur les fichiers de compression de l'image, mais ça peut aussi être du son et d'autres choses. Mais ce n'est pas du tout la même approche et pas du tout le même positionnement entre guillemets, politique. Parce que, effectivement, par contre, il est vraiment dans une tradition du paysage. Et tous les artistes, disons, de Chicago, ou ça remonte jusqu'à Giotto, ils ne sont pas du tout là, du tout dans ce truc formel. Ils sont dans. Pour eux, le glitch, en fait, c'est le seul endroit où la machine nous parle. C'est-à-dire, c'est à cet endroit, en fait, qu'on voit ce que fait la machine. Et que le glitch, c'est l'endroit, en fait, qui cristallise. Justement, la vision du monde par les machines, et ils ont une approche beaucoup plus, un peu coup de poing hein, par rapport à ça. Ils ne cherchent pas forcément ni quelque chose de beau ou de sublime, ils cherchent plutôt à questionner, en fait, et les structures qui sous-tendent, en fait, tout notre champ visuel, enfin, tout ce qu'il y a derrière, en fait, une jolie image. Quoi. Et je trouve ça assez intéressant, par exemple, Benjamin, ce qu'il va faire, donc avec la même pratique, il va faire une appli qui s'appelle Corrupt, il va rentrer dans un Apple Store, il va installer son appli Corrupt sur tous les bureaux d'ordinateurs de l'Apple Store, hein, ce qui a pour effet de complètement glitcher, c'est-à-dire de faire comme si l'écran, en gros, il dysfonctionnait totalement, enfin un truc hyper clignotant, etc. Et il va pousser le vide jusqu'à mettre le petit logo de l'appli, il va le remplacer avec le logo Firefox. Donc quand on clique dessus, en plus, chaque fois, en fait, quand quelqu'un de l'Apple Store l'éteint, il le relance, il reclique sur l'application, il la relance. Et du coup, en fait, c'est, disons, une sorte de même technique. Mais disons, le background et l'endroit où ça se passe, en fait, l'implantation est complètement différente.
C'est ce qu'il appelle, il a fait une conférence récemment là-dessus sur le retail poisoning. Il empoisonne littéralement, et il y a une vidéo que vous trouverez en ligne sur le site de Benjamin Golon, et je crois d'ailleurs que c'est en banlieue parisienne où on voit ce vendeur.
C'est à Aix.
On voit ce vendeur qui ne sait pas comment faire, qui le rallume, et comme il est suffisamment tordu pour l'avoir mis sa pari en démarrage, chaque fois qu'il va le rallumer, il va régénérer l'erreur. Est-ce que vous ne pensez pas, j'oublie un peu mes questions, j'y reviendrai peut-être après, est-ce que vous ne pensez pas que cette attente, ce souhait, comme il y a plusieurs œuvres ici, mais comme il y en a bien d'autres ailleurs, et c'est pas nouveau d'ailleurs, parce que l'aléatoire, l'erreur, on pourrait remonter au fluxus aussi.
Oui, mais même en vidéo obtenue, c'est exactement
voilà,
ça. C'est
exactement. Est-ce que nous avons tous un usage du numérique, presque, un usage du numérique aujourd'hui, dans nos différents métiers, nos différentes entreprises, écoles, etc. Est-ce que c'est pas très artistique que d'utiliser des machines pour générer de l'erreur? Est-ce qu'il y a d'autres communautés qui attendent l'erreur? C'est intéressant. Est-ce que c'est pas... Non, sérieux,
hein?
Non, mais
si, oui.
Moi, alors, j'avoue que je ne penserais pas que c'est... Enfin, que ça a une part dans l'art et le numérique, certainement. De toute façon, je pense que toute pratique artistique, il y a un moment donné, souvent au niveau pionnier, ou en tout cas, on expérimente. Pour expérimenter, on casse l'image. On voit comment elle fonctionne, tout simplement. Est-ce que ça veut dire qu'on fait ça pendant 50 ans? Non, on passe à autre chose. Mais effectivement, quand on s'approprie un nouveau médium, que ce soit numérique, ça peut être l'aquarelle, en même temps, ça n'a aucune importance. Il y a eu un moment où on a cherché effectivement la tâche, l'erreur, le bug.
Oui, voilà. Mais les machines au départ sont inventées justement pour nous permettre de contrôler, de traiter l'informatique, il y a automatique, il y a information. Enfin, c'est pas du tout fait pour générer de l'erreur. Donc là, on est face à des technologies qui sont des technologies du lissage et de la perfection. Et finalement, c'est les seuls.
C'est là.
Je pense d'ailleurs que c'est peut-être la différence. D'une certaine mesure, pas systématiquement, mais entre on va dire le monde du design industriel par exemple,
et le monde des artistes qui vont se servir des mêmes applications, mais qui vont, pour les uns, s'en satisfaire, et pour les autres, essayer de la corrompre. Et ça, c'est très artistique, je pense.
Non, mais est-ce qu'il y a un... Vas-y.
Peut-être non, pardon. En fait, justement, ce que vous dites par rapport à ça, je trouve ça effectivement assez intéressant, mais je voudrais l'orienter par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de... Finalement, vous parliez de représentation politique, rapidement, vous l'avez vraiment passé rapidement, et de critique cinéma classique par rapport à ce qu'on pourrait faire, effectivement, dans une approche plus réelle. Vous parlez de corruption, vous parlez d'appropriation. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans l'aspect critique et dans l'aspect numérique, quelque chose d'intrinsèquement lié, justement, sur une forme de... C'est une question. Hein, sur une forme de remise à plat des représentations, donc d'un aspect direct, de délégation, d'un aspect direct au sujet, au sens, et que du coup, ça oblige tout le système représentatif, donc j'entends vraiment très largement, à se remettre en question.
C'est-à-dire à la fois les créateurs, mais ceux qui parlent, les créations...
L'intermédiaire, le média, et puis aussi les créateurs qui manifestement se...
Ça, je pense que c'est une question large, mais enfin, c'est la question que vous posez, en fait, vous pouvez la poser dans plein d'autres champs. En quoi est-ce que ça change complètement ou pas? C'est ça toujours la...
Je pourrais poser la question à l'inverse, c'est-à-dire est-ce que le numérique a une fin en soi? Et si c'est le cas, est-ce que c'est un lissage ou est-ce que c'est une corruption? Mais je préférais brouiller un peu les pistes générales.
Vous les avez vachement bien brouillées.
Ouais. On n'est qu'au début.
J'ai du mal. En fait, je comprends. Est-ce que vous pouvez donner un exemple?
Je reprends votre exemple de tout à l'heure sur la critique de J'ai pas vu le film, qui me semble. Ouais. Je n'avais pas donné envie de le voir, de hacker, et d'un quelconque critique qui donne du coup une critique classique et qui va dire voilà, j'ai vu le film, c'était intéressant pour ça, pas intéressant pour ça, patati patata, moi j'en pense que. À côté de ça, vous expliquez que justement, vous souhaitiez aujourd'hui approfondir les choses, donc avoir une emprise plus directe. Le critique, qu'est-ce qu'il faisait jusqu'ici? Il me permettait, moi, quand je lisais Libé, ou n'importe quel autre journal, hein, je dis ça peut-être là, il me permettait de me faire un avis avant d'aller le voir, et puis quelque part, je me remettais au choix de chacun. Donc quelque part, j'étais dans une... Je remontais le comme le saumon la rivière, la délégation qu'on me permettait d'avoir.
Mais c'est ça qu'il faudrait.
Et une nouvelle pratique, donc du coup, pardon, permettrait de peut-être me rapprocher.
Il faudrait être super précis en fait sur chacune des fonctions. Par exemple, si on s'intéresse à la fonction critique, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est sûr qu'elle est, enfin, je pense qu'elle est très très travaillée par la question du numérique, mais pas tant du numérique en tant que technique, mais du numérique notamment par les réseaux sociaux. C'est la diffusion, enfin, ce serait hyper intéressant. S'il était possible de voir, par exemple, dans quelle mesure un critique est prescripteur ou pas, ce serait très intéressant de voir comment la prescription a changé de lieu. C'est-à-dire que le bouche à oreille a toujours emporté sur tout. Enfin, même autant la critique classique, vous aviez des films qui étaient complètement descendus, qui avaient des énormes succès populaires. Bon, voilà, le bouche à oreille a toujours. Mais là, vous avez le bouche à oreille et puis vous avez un espace. Vous avez le bouche à oreille, les prescripteurs traditionnels qui font la critique traditionnelle, et puis vous avez un espace entre les deux, qui est l'espace de la conversation numérique. Voilà. Et c'est sûr que cet espace-là, il y a plusieurs choses. Il y a le numérique, disons, et à l'intérieur de l'espace de cet espace du numérique, vous avez la conversation numérique sur les réseaux sociaux, vous avez aussi les algorithmes de recommandation, qui sont aussi une chose qu'il ne faut pas du tout négliger. Hein, ça, vous allez sur Allociné, en fonction de ce que vous allez regarder comme film, on vous fait des demandes, etc. Et ça fonctionne vachement bien, les algorithmes de recommandation. Regardez sur Amazon, hein. Ça fonctionne à la fois très bien et très mal. C'est ça qui est extraordinaire avec les algorithmes de recommandation. Moi, il y a 4 ans, en tout cas, on m'avait demandé d'écrire un texte sur comment il s'appelle le cycliste qui est toujours le deuxième, Poulidor. Et donc j'ai cherché des bios de Poulidor. Donc, je suis allé sur Amazon et j'ai tapé Poulidor pour trouver des bios de Poulidor. Depuis, la moindre bio d'un cycliste qui paraît, dès que je suis sur Amazon, pouf, je l'ai. J'ai des mails, genre la bio de Bernardino, la bio de machin, ça. Bon, là, ça, je veux dire, ça fonctionne super mal. Je ne vais pas lire toutes les bios de machin. Mais en même temps, parfois, c'est fascinant. L'algorithme de recommandation d'Amazon, il est fascinant. Car d'un coup, et les 5 bouquins qui vous donnent, vous auriez envie de les acheter. Donc, par exemple, ça, c'est un type de prescription, par exemple, qui n'existait absolument pas auparavant, voilà, et qui, perturbe, je pense, énormément le trajet traditionnel, la prescription entre le critique et son public. Enfin, bon. Donc à partir de là, vous pourriez vous dire, tiens, bon, alors qu'est-ce qu'on fait, quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que finalement, le rôle dit... est-ce que le critique doit quitter son rôle de prescripteur en disant aux gens, il faut aller... Enfin, en gros, voilà, si vous êtes critique avant, allez voir ça, n'y allez pas, enfin, ça... Et donc, effectivement, l'idée de trouver des formes nouvelles pour parler de ces œuvres, etc., c'est aussi, du coup, se dire, bon, bah, puisque c'est plus ça qui est intéressant, puisque ça ne joue plus ce rôle-là, qu'est-ce qu'on peut faire, jouer comme rôle à celui qui parle d'art à l'intérieur d'un média autre que celui de prescripteur, quoi, de celui qui est... Ouais, et donc, c'est une des possibilités, c'est ça, mais il y en a mille. Hein.
Alors, j'ai envie de réagir parce que, effectivement, bon, c'est vrai qu'il y a le mot critique dedans. Effectivement, on a l'habitude de croire que c'est un rôle de prescripteur et je suis là pour vous dire allez voir ou allez pas voir une expo, mais c'est absolument pas le cas parce que j'écris pour de la presse spécialisée. Et les revues d'art, ben, c'est un luxe quand la critique paraît en même temps que l'expo. Ça arrive jamais en général, c'est un mois plus tard, deux mois, enfin bon bref. Donc finalement, on n'a pas le rôle de prescripteur, mais on a directement ce rôle de réfléchir à ce qu'on a vu. Donc le minimum basique, c'est juste de dire qu'est-ce que vous n'avez pas vu, donc quand même il faut mentionner toutes les œuvres, mais alors à partir de là on peut réfléchir, et effectivement en 10 ans, pourtant j'avais quand même internet il y a 10 ans aussi, mais n'empêche que ce boulot que je dois faire de recherche avant d'écrire est devenu beaucoup plus énorme, parce que comme vous dites, sur internet, mais d'un algorithme à l'autre, en fait on tombe sur une quantité d'informations pas possible, et donc autant de pistes possibles pour aborder même sa propre réflexion, donc ça devient beaucoup plus compliqué qu'autrefois où faisais mes recherches en bibliothèque un petit peu, mais maintenant c'est juste plus possible. En fait, je ne pourrais pas. L'idée de se connecter, c'est.
C'est intéressant aussi pour préparer ses papiers. C'est une fois, Nick Bureau, qu'on connaît beaucoup à connaître ici. Moi, j'ai eu la chance de l'enseigner un petit peu à Chicago, qui l'a fait aussi, qui l'a fait avant moi, et qui m'avait dit une fois, mais je l'ai fait, et Internet n'était pas ce que c'était. Et c'était une façon de dire, parce qu'en fait, quand c'est dans une école à l'étranger, quand on est un peu moins à l'aise et tout, c'est plus difficile. Avec Internet, ça s'est déjà énormément facilité, quoi. Avant, c'était évidemment passer du temps. J'ai des amis qui l'ont fait avant moi en bibliothèque, avec une langue qui n'est pas non plus la sienne. Je voulais revenir à la question des discussions, des échanges, notamment sur Rue 89. Les commentaires sont activés, c'est aussi l'intérêt. Il y a bien souvent beaucoup plus de commentaires que d'articles. Il y en a énormément, hein. Parfois intéressant, je ne sais pas comment c'est modéré d'ailleurs, pas toujours, bon, ok.
Si vous voulez, on peut y passer la nuit.
Non. Mais est-ce que vous pensez ici, je ne sais pas toi si t'es arrivé d'avoir des articles qui étaient, où il y avait une participation du public.
Ça m'est arrivé d'avoir des commentaires,
oui.
Mais pas comme ça. Non, pas du
non.
tout. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que bizarrement, en fait, les papiers étaient publiés en culture, qui n'était pas du tout l'endroit en fait, où étaient les lecteurs de ce genre de papier. Donc il aurait fallu les publier en écran. Enfin, je veux dire, c'est du rubriquage. À donc en fait, et le problème, c'est que c'était hyper fragmenté. Donc du coup, je veux dire, les papiers circulaient plus par mail ou par comme ça, que de manière
Et la question, c'est est-ce que vous pensez la lecture par les critiques journalistes qui sont auteurs de ces articles sont énormément commentés, est-ce que vous pensez que ces commentaires sont de nature à modifier la façon d'écrire?
Bah évidemment.
Ouais,
mais d'ailleurs avec un spectre complètement faussé. C'est-à-dire que, par exemple, nous, je sais pas, vous prenez un article non standard, ça n'existe pas, mais... Là, vous allez avoir, je sais pas, 90 commentaires qui ne sont pas de 90 commentateurs différents. Donc, les 90 commentaires, je sais pas, disons, 30 commentateurs, dont certains qui peuvent en mettre 10, et qui va être vu par, je sais pas, disons, 40 000 personnes. Donc, le ratio, il est extrêmement faible. Simplement, vous en avez sur ces 80 000 personnes, enfin, sur ces 5, disons, 30 000 personnes, vous en avez 29 920 qui sont silencieuses, voilà, donc vous ne saurez jamais ce qu'elles ont pensé du papier, puis vous en avez 80 qui gueulent sous le papier. Bon. Et bien évidemment, c'est les 80 qui gueulent sous le papier qui l'emportent, les autres, vous ne savez pas. Bon. Et évidemment, c'est nous, par exemple, sur la question du traitement de l'art, c'est sûr que ça nous pousse à nous dire, ok, bon, il faut parler de la manière dont le numérique travaille l'art. Si on leur parle d'art numérique, on s'est pété la gueule. Plus l'art numérique, plus cet art numérique est proche et ressemble à disons de l'art contemporain, type installation, etc. Ah, c'est encore pire parce que là, il y a tout discours entier contemporain, etc. Et que donc qui vient se coller en plus à la haine du numérique du lecteur de 89. Donc ça là c'est la fusion, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire quoi? Et alors moi dernièrement j'étais hyper content, mais j'ai pas encore publié le papier, mais je suis hyper content parce que je pense que j'ai trouvé un truc. Bon, je vais en sortir plein la gueule, mais c'est pas là. Parce que il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Levillan. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Non mais bon, je vais apprendre.
C'est un bon biais.
Parce que c'est un mec. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Vous pouvez aller le voir sur internet, comme on dit dans les années 90. Thomas Levillan, c'est vachement intéressant ce qu'il fait parce que la forme des pièces est extrêmement classique. Il fait des dessins, du fusain et de la peinture. Hyper réaliste. Enfin, c'est vraiment une sorte de. Enfin, c'est oui, réalisme. Mais il y a deux choses qui sont très intéressantes dans ce qu'il fait. C'est d'abord, c'est la première, c'est qu'il représente des problèmes numériques. Alors, il peut, par exemple, il a fait toute une série qui s'appelle Webcam, où il a dessiné au crayon des scènes vues sur un site de webcam de. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça montre que la webcam crée des angles bizarroïdes, intéressants, inédits. Non, parce que personne n'a pensé avant la webcam à cet implant voilà, auquel on pense quand on fait de la webcam de cul. Bon. Donc ça, c'est un truc intéressant. Par ailleurs, il montre aussi des postures de gens, des postures numériques. Par exemple, je pense à une peinture, c'est un dessin. C'est ça, une femme couchée sur un lit qui regarde son Facebook sur son lit, ou alors un mec dans un grand paysage de nature comme ça. Alors, vous avez un énorme paysage de nature comme ça, hyper réaliste, hyper beau, hyper exprès, enfin, voilà. Et puis vous avez au centre quelqu'un qui est en train de regarder son portable quoi. C'est le mec qui se paraît, il est dans le cœur de la nature, il regarde son portable. Et vous avez par exemple il peint très bien les postures aussi. Donc vous avez par exemple le type dans la rue qui est en train de regarder son smartphone, voilà, qui peint comme un. Donc ça c'est vachement intéressant, c'est que déjà il représente des questions numériques, des postures numériques, et ça, ce qui n'est pas si courant que ça hein, dans l'art. Non, mais tu vois, dans l'art, disons, hors art numérique. Enfin, tu vois, non. Ah, ok, c'est problématique. Le truc qui est vachement intéressant aussi, c'est que ce type, si on raconte la manière dont il travaille, il a une manière qui est ultra contemporaine de travailler. Parce que comment il travaille, c'est ça qui est vraiment rigolo. Si on prend la série des webcams, ben en fait, toute la journée, en bossant, il bosse, par exemple, il est en train de peindre un truc, machin, etc. Et là, les webcams de cul qui tournent. Et quand il voit un truc qui a l'air intéressant, pof, il fait des captures d'écran. Ouais. Et puis après, il les archive, et puis après, deux ans plus tard, il dessine une capture d'écran. Bon. Ou alors, quand il fait ses énormes tableaux, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est un type qui passe son temps avec un smartphone, et il photographie des trucs. Donc, typiquement, ce paysage de nature dont je vous parlais, ben, il a été dans un endroit en vacances, comme il s'emmerde quand il est en vacances, il a photographié comme ça, le paysage. C'était rare, des mouvements de paysage, puis il avait photographié aussi un type qui était en train de regarder son smartphone, etc. Et après, il les rend dans son ordinateur, il crée des banques des banques d'images, il les indexe, etc. Avec Photoshop, il met ensemble avec Photoshop pour obtenir une image plus dense que la réalité. Voilà, donc il rassemble des paysages, comme ça, il met des trucs, là, il bourre l'image, il va chercher son mec qu'il a vu sur une plage, il le met dans la nature, etc. Machin, il crée l'image. Complètement photoshopé à partir d'une banque d'images indexée, réindexée, qui passe son temps à bouger, etc. Et après, il se met face à son tableau et là, il peint de la manière la plus classique. Il peint techniquement. Quoi. Il peint, machin, etc. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme c'est un type qui est, en fait, c'est un vieux. C'est ça qui est drôle. C'est qu'en fait, c'est un mec, ses références, c'est l'art. Non, mais c'est.
Ah, tu veux dire, il n'est pas vieux.
Ah non, il a 35 ans. Mais je dirais, ce qu'il aime, c'est l'art du 17e, etc. Et donc, en plus, il peint avec bourré de références d'art que tout le monde connaît. Quoi. Donc, par exemple, la fille qui regarde son Facebook sur son lit, c'est un Velázquez. Ah, mais c'est ça qu'il est allé prendre le Velázquez et il l'a mis, au lieu de la mettre la fille face à son miroir, il la met face à Facebook. Et donc.
Et d'ailleurs, juste, je sais pas, il a fait un spectacle en réalité, où il se met en scène, enfin, disons qu'il y a un acteur qui joue son rôle, où tu l'avais déjà vu à Hors Piste, et en fait, c'était avec Benoît Fongeard. Et c'était assez marrant parce que justement, ça parlait de ça en fait, c'est que l'histoire, c'est un jeune peintre, qui doit faire un pacte faustien avec un collectionneur.
Ce collectionneur, donc interprété par William Forger, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous conseille, c'est vraiment excellent ce qu'il fait. Et donc ce collectionneur, en fait, il essaye de le convaincre de travailler pour lui et de faire son œuvre, son grand œuvre, en fait, pour sa collection. Et au fur et à mesure, donc il parle peinture, etc., et au fur et à mesure, il s'avère que ce collectionneur, en réalité, il possède toutes les peintures fabuleuses des Van Gogh, des exemplaires, des vrais Van Gogh, des vrais Velázquez, des vrais... Et alors, donc le pacte sien, c'est que, en échange pour apparaître dans sa collection, en fait, il n'a plus jamais le droit d'aller voir le jour, il faut qu'il peigne toute sa vie, et en fait, il ne mourra jamais. Donc en fait, parce qu'il dit, il ne faut pas croire que Van Gogh ait réussi à faire ça dans son court laps de temps. En réalité, c'est parce qu'il avait passé ce pacte avec ce collectionneur qui fait qu'en fait, il a pu travailler sur un temps infini pour arriver à la perfection. Et donc, en fait, il y a ce moment où, en fait, qui est assez en fait, prétentieux d'une certaine manière, où lui, donc les Villanes, ou en tout cas ce jeune peintre débutant fait des commentaires sur les toiles et se compare, se met vraiment au niveau des grands maîtres de la peinture qui est assez drôle. Alors je sais pas trop s'il a moi je le connais pas, il a l'air en rire tonitruant, ouais, ouais. On m'a dit, donc ouais. Je pense qu'il doit être assez marrant, mais en tout cas c'était assez étonnant comme proposition aussi. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est le temps qu'il met à peindre, en fait, c'est un peu.
Et ce qui est marrant, c'est que du coup, moi je me dis, ce type de personne, disons, si on, journalistiquement, et si on s'intéresse à un grand public, donc qui n'est pas vraiment.
On n'a pas le même public.
Voilà. Je me dis, voilà, ce genre de personne, c'est intéressant pour nous. Parce qu'il peut faire comprendre, il peut faire comprendre comment les choses, comment il y a des continuités, comment les choses se mêlent, comment, voilà, etc. Moi, je cherche la même chose en littérature, par exemple, aussi des gens qui sont à la fois des classiques, au sens, qui en même temps, qui font pas, disons, je sais pas, des trucs très très pas du cut-up, etc. Mais qui réinvestissent, disons, dans des formes classiques, des problématiques de ce que le numérique fait à la littérature, par exemple. Journalistiquement, je suis en quête de ça.